autour de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, en duplex avec notre studio à Dakar pour mettre en son et en lumière la recherche africaine. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du boulot. Comment sortir de leur invisibilité, les chercheurs du continent et de la diaspora qui ne ménagent ni leurs efforts, ni leur travail, ni leur inventivité. Pourquoi seulement 3% des publications scientifiques mondiales proviennent d'Afrique? Comment soutenir, développer, dynamiser les jeunes talents sur le continent? Non, comme dans la diaspora. Comment valoriser la recherche made in Africa dans toutes les sciences et en interdisciplinarité, de la formation jusqu'aux publications des universités, jusqu'au laboratoire. Vaste chantier auquel s'attaque résolument notre invitée, la professeure en sciences politiques Mam Pendaba, directrice du laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique-Diaspora à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal, en charge du programme Global Africa, un programme chargé de sciences ouvertes au Sud, par le Sud et pour le Sud, qui comprend des volets de formation, de soutien et de diffusion de la recherche, et notamment et surtout la sortie, une première, d'une nouvelle revue scientifique africaine en accès libre sur le web et en quatre langues, français, anglais, arabe et swahili. On lève le rideau depuis Dakar et Bamako, mais aussi Nairobi ou Maputo, sur cette initiative réellement panafricaine, inédite et inspirante, autour de la question « Comment faire rayonner la recherche africaine ». Bienvenue.
Global Africa, l'idée quand même, et je pense que Mam Pendaba pourra le dire mieux que moi, c'est de développer une réflexion sur l'Afrique à partir de l'Afrique, mais qui aussi parle au monde. C'est un peu prétentieux, mais en tout cas, qui dit des choses sur la mondialisation. C'est une façon de renverser la perspective et pas seulement de se poser la question comment l'Afrique, je dirais pas est rentrée dans l'histoire, mais comment l'Afrique est rentrée ou pas dans la mondialisation, est en marge du commerce mondial, etc. Non, c'est plutôt dire comment l'Afrique peut renseigner les trajectoires, y compris du monde, par ses innovations, par son rapport à l'État, par ses rapports entre cultures, entre sociétés, etc. Et donc ça, une fois qu'on a dit ça, on fait comment? Faire en sorte qu'on valorise les savoirs produits en Afrique, notamment par les Africains ou par la diaspora ou par des chercheurs aussi européens qui travaillent depuis longtemps en Afrique. Mais enfin, en tout cas, d'abord la recherche produite par l'Afrique.
Voilà qui est dit depuis Bamako par l'anthropologue de la santé Laurent Vidal, représentant de l'IRD au Mali. C'est entre autres avec lui que vous avez commencé à monter, à imaginer, à penser les prémices de ce programme Global Africa. Bonjour Mam Pendaba.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en duplex avec nous depuis les studios de RFI à Dakar, les studios de nos rédactions en mandingue et en full-full-dé. Vous êtes Mam Penda, professeure et chercheuse en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Signalons tout de même que vous êtes la première femme agrégée de sciences politiques au Sénégal, directrice du LASPAD, le laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs d'Afrique et diaspora. Vous êtes donc aussi désormais rédactrice en chef de Global Africa, la nouvelle revue scientifique africaine dont vous préparez les premiers numéros en quatre langues, rien que ça, français, anglais, arabe et swahili. Mais ce n'est, j'ai envie de dire, que la partie émergée de l'iceberg, de cet iceberg Global Africa, qui cherche vraiment à rendre visible, à encourager, à faire rayonner la recherche, toutes les recherches menées sur le continent ou par la diaspora, car il y aura aussi des formations, un colloque prévu cette année dans votre ville à Saint-Louis. C'est juste énorme Global Africa, énorme et génial et tellement bienvenue. Mais comment, Mam Pendaba, réussissez-vous à porter un pareil projet sur vos petites et belles épaules?
D'abord, vraiment un très grand merci Caroline pour cette opportunité de discuter et d'échanger autour de ce programme en effet absolument important et fascinant. La première chose à dire, c'est que mes fragiles épaules sont absolument incapables de porter toute seule un programme de cette envergure qui s'inscrit aussi dans la durée. Notre ambition est vraiment de pérenniser et de donner envie à tous les autres collègues du continent d'innover, qu'il y ait un bourgeonnement autour de la recherche. Et je dois donc dire que nous sommes un consortium de 13 institutions de recherche. Et l'IRD est vraiment au cœur aussi de ce dispositif, à côté des universités africaines et des institutions de recherche panafricaines. Je pense au CODESRIA, que vous connaissez, qui est la plus ancienne institution panafricaine de recherche en sciences sociales. Je pense à la toute jeune association africaine qui est aussi née et qui est au Ghana, qui s'appelle AISA, mm-hmm. African Studies Association for Africa. Et donc, ce n'est pas que l'université Gaston Berger, même si, effectivement, il était symboliquement absolument important d'ancrer ce programme sur le continent. Tout se fait ici, tout se passe ici, tout a été réfléchi à partir de ce que Laurent et moi, nous appelons un axe nord-sud. Et nous le disons en riant, un peu en souriant, parce que ici, le nord, ce serait Saint-Louis. Et c'est effectivement très souvent moi qui allais au sud de Saint-Louis, c'est-à-dire à Dakar, en fait.
Quand
Laurent, voilà. Et donc, voilà, c'est vraiment une discussion entre le nord et le sud. Dès le début, c'était entre l'IRD et l'Université Gaston Berger que l'idée a prise, et ensuite on a progressivement mis autour de nous tous ces collègues et toutes ces institutions.
C'est ça, hein, on peut citer aussi l'Université internationale de Rabat, bon, vous l'avez cité, le LASDEL au Niger, c'est vraiment de la science ouverte, mais comment dire, ce projet Global Africa, et Laurent Vidal l'a bien dit, je crois que vous en aviez parlé tous les deux déjà au Sénégal, hein, quand il représentait l'IRD à l'époque, c'est vraiment de partir du continent, des recherches menées sur le continent, des questions qui fâchent aussi sur le continent, et de tout ce constat aussi d'invisibilité absolue de cette recherche qui est faite par des chercheurs africains localement sur le continent comme dans la diaspora. C'est comme si ça n'existait pas, or ça existe. Et il faut le faire savoir, le rendre visible et puis soutenir les jeunes. C'est vraiment ça, il y a vraiment plusieurs axes aussi dans ce plan Global Africa.
Mmh, tout à fait. Écoutez, Caroline, je crois que vous avez donné le chiffre clé qui fait frémir, en fait. Vous avez dit 3% de la recherche mondiale est produite, seulement de la recherche mondiale est produite sur le continent. En fait, c'est même moins de 3%. Mmh. On est vraiment autour de 2,5-2,6% de la littérature scientifique qui est produite sur le continent qui abrite 13% de la population mondiale, le continent qui investit seulement à hauteur de 1,3% dû pour le financement de la recherche. C'est un continent où on compte 198 chercheurs par million d'habitants, alors que la France compte 4715 chercheurs par million d'habitants, le Royaume-Uni 4600. Et le Chili, les pays émergents, sont autour de 400-500. L'Afrique est à moins de 200 chercheurs par million d'habitants. Ces chiffres font frémir, font peur, et nous sommes largement en deçà de notre capacité. Ça, c'est vraiment la première chose. Ce sont les faits, les chiffres, les ratios qui sont absolument alarmants. Alarmants parce qu'au moment où on dit ça, c'est aussi en même temps le continent où nous avons la plus grosse progression du nombre de jeunes chercheurs. Mais vous savez, encore une fois, cette chance extraordinaire que nous avons d'avoir une population jeune et dynamique. Donc nous avons, même s'il y a une grosse progression en termes de recherche et de nombre de chercheurs, nous sommes largement en deçà de nos potentiels, de nos capacités. Oui.
Et à cela, il y a de multiples causes, entre guillemets. J'ai envie de citer le témoignage d'un de nos auditeurs depuis Kinshasa. C'est Jordan Boukeli, Sileta, qui a publié ça sur la page Facebook de l'émission. J'ai un peu voulu le citer parce que je trouve qu'il résume assez bien la question. Il dit, en gros, les responsabilités sont partagées. Parce qu'il dit, les étudiants, souvent, ne pensent pas devenir des chercheurs parce que la recherche ne paye pas. Il manque aussi souvent de passion, mais tout ça parce que les gouvernements ne financent pas, dit-il, le secteur de la recherche, les États africains, des déjà n'ont pas vraiment d'entité de recherche publique. Et puis, ils disent, s'il y a une initiative privée, les gouvernements ne la financent pas. Ils citent le cas d'un programme de recherche spatiale et technologique à Kinshasa. Et ils disent, mais finalement, la recherche, personne ne la soutient. Donc, ils disent vraiment, la responsabilité est partagée aussi parfois par les enseignants qui doivent faire plus, par les gouvernements qui doivent soutenir, accompagner les initiatives privées. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, qu'il y a un faisceau, comment dire, d'obstacles, de responsabilités, mais qu'il y a moyen de les franchir, tous ces obstacles?
Les causes sont absolument nombreuses. En fait, il y a vraiment des facteurs cumulatifs qui se renforcent en réalité. Ce qui fait que le constat, il est à ce niveau-là. Mais je voudrais quand même insister sur le fait qu'il faut nuancer le propos. Et je prendrai à témoin même Global Africa. La question du financement de la recherche, c'est quelque chose une question centrale dans la discussion. Vous savez que les pays de l'Union africaine avaient décidé il y a quelques années d'accorder 1% de leur PIB à la recherche et au développement, ce fameux R&D. Aujourd'hui, aucun pays, mis à part l'Afrique du Sud, on est à 0,45%. Même pas la moitié de l'objectif qui est atteint. Et ça, c'est un rapport de 2021, de cette année, de l'UNESCO qui le montre. Donc l'investissement, là où je suis d'accord avec lui, c'est que l'investissement, qui doit être un investissement à la fois massif et durable, parce qu'il ne s'agit pas d'injecter et de reculer. Il s'agit d'ancrer sur la longue durée et de soutenir des programmes qui sont des programmes prioritaires pour les États, d'investir dans cette recherche. Parce que c'est par là qu'on va avoir des taux de croissance. C'est par la recherche qu'on va créer des emplois innovants. On y reviendra sans doute. Quand il parle du désintérêt, il y a à la fois... Voilà, là aussi, il faut contraster. Parce que le continent africain, vous le savez, il faut vraiment le conjuguer au pluriel.
Mais évidemment, c'est énorme. C'est le continent africain.
Exactement, c'est ce continent. Et donc, on ne peut absolument pas comparer la situation de l'Afrique du Sud avec celle du Mali. C'est-à-dire qu'on est juste dans des choses qui n'ont strictement rien à voir. Mais au moment où on dit ça, effectivement, il y a une sorte de désintérêt des jeunes étudiants à aller vers la recherche parce que c'est un chemin qui est parsemé d'embûches. Je veux dire, de manière tout à fait bête et méchante, c'est une très longue carrière. Faire une thèse sur le continent, c'est plus de 10 ans, voire 12 ou 13 ans. On se retrouve avec un niveau de salaire qui n'est même pas comparable avec celui, même si l'exemple du Sénégal est en contradiction, nous avons des salaires relativement corrects, mais comparativement, par exemple, aux organisations internationales ou au secteur privé, ce n'est absolument pas attractif. D'où un phénomène, en fait, double, non seulement cette sortie des meilleurs qui peuvent être capturés par des universités, et vous savez que c'est cette fameuse circulation des cerveaux, mais en plus de ça, le lieu de la capture, ce n'est pas seulement l'extérieur, c'est aussi les autres institutions dans les pays. Les ONG, quand une ONG internationale arrive à Dakar ou à Abidjan, etc., ce qu'elle essaie de faire, c'est aussi d'avoir des spécialistes qui viennent, toujours, mais en partie de l'université. Donc, il y a plusieurs, en fait, zones, portes qui drainent ces ressources-là à l'extérieur. Donc, Global Africa a été pensé précisément à partir du fait que c'est une question complexe. La question du soutien à la recherche africaine est éminemment complexe et ne peut donc pas avoir une seule réponse. Et c'est pourquoi, comme vous le disiez, à côté de la revue, qui est vraiment le lieu de soutien à la production de qualité, j'insiste énormément sur cela.
De recherche d'excellence, de production de niveau international, on est bien d'accord.
Exactement. Et d'avoir cette exigence et de tenir cette exigence de rigueur et de qualité, nous avons à côté de cela des écoles jeunes chercheurs précisément qui sont considérés comme des sortes d'incubateurs en fait pour accompagner des jeunes chercheurs niveau master, niveau doctorat, niveau jeune post-doc qu'on accompagne dans leur recherche, dans leur capacité à écrire des articles de pointe parce que ce que les Africains ont comme avantage comparatif, y compris sur les spécialistes non africains du continent, je pense à Laurent Vidal par exemple, c'est l'accès au terrain. Aujourd'hui, voulez faire un magnifique terrain dans le nord Nigeria, il ne faut surtout pas être américain, il ne faut surtout pas être français, on est absolument d'accord, ou suédois. Mais les Africains et tous dans leur ensemble ont cette chance-là de pouvoir avoir accès à ce terrain, de pouvoir théoriser, de pouvoir conceptualiser des choses, d'être au plus près des réalités de leur continent. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire et que nous essayons de faire dans ce programme.
Qu'il faut effectivement, Mme Pendaba, soutenir absolument pour pas que justement les chercheurs africains se contentent, enfin entre guillemets, d'aller recueillir toutes les données et que ce soit d'autres qui en profitent. On le voit bien, vous l'avez dit, c'est une question très complexe de soutenir la recherche africaine et c'est pas seulement une question financière. On va y revenir autour de la question comment faire rayonner la recherche africaine. Vous l'avez dit aussi, Global Africa a un vrai socle, un vrai port d'ancrage là avec vous, Mme Pendaba. C'est votre laboratoire à l'université Gaston Berger chez Un Saint-Louis, où l'on s'arrête à aller en musique, au son de la chorale Blaye Sissoko que vous avez joliment choisi de nous glisser entre les deux oreilles, et on vous en remercie. Et la chorale Blaye Sissoko sur RFI entre Saint-Louis, au nord du Sénégal, où vous nous écoutez sur 99.7, chers amis auditeurs, jusqu'à Dakar, où vous êtes en ce moment en duplex avec nous, professeur Mam Pendaba, directrice du laboratoire de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et rédactrice en chef de la nouvelle revue scientifique africaine Global Africa, un sacré programme, oui, de sciences ouvertes en Afrique par les chercheurs africains, par ceux de la diaspora, autour de la question comment rendre visible, comment faire rayonner la recherche en Afrique. Il y en a, et vous l'avez dit, Mam Pendaba, d'excellentes, notamment en termes de santé. On pense évidemment au laboratoire d'excellence internationalement reconnu dans la lutte et la recherche contre le paludisme, monté par le regretté Ogbara Doumbo au Mali. Mais le continent pourrait aussi être porteur d'autres sujets, on l'a dit aussi, d'autres questions scientifiques. Je propose d'écouter l'éclairage de votre ami et confrère, l'anthropologue de la santé Laurent Vidal, que l'on a entendu en tout début d'émission. Il est actuellement représentant de l'IRD à Bamako, au Mali, après l'avoir été au Sénégal, éminent spécialiste des questions de santé dans toute l'Afrique de l'Ouest, fervent partisan et acteur d'une véritable science ouverte au Sud et pour le Sud. Je vous propose d'écouter son éclairage, en demi-teinte évidemment, et vous réagirez ensuite, Mam Pendaba.
Les recherches sur lesquelles on peut se targuer de réussite, et le ON, c'est pas l'IRD en particulier, hein, pour le coup au Mali, c'est plutôt les laboratoires maliens qui peuvent être à des moments donnés appuyés par l'IRD, c'est vraiment sur les questions de santé. La lutte contre le paludisme, on a un laboratoire connu, vous avez, je pense, souvent accueilli Ogbara Doumbo quand il était là. Bon, ce sont ses héritiers qui sont là. Et donc, voilà, sur les questions de santé, là, il y a une étude qui vient de sortir, la première au Mali, sur la prévalence de Covid, et on se rend compte qu'on n'est pas loin de l'immunité collective au Mali, puisqu'on a entre 50 et 70% de personnes qui ont contracté le Covid, alors avec un impact en mortalité bien moindre qu'en Europe. Mais enfin, bon, voilà, on peut avoir des résultats tangibles. Bon. Par contre, à côté de ça, et les questions de santé sont toujours massives en Afrique, bien évidemment, donc il faut de la recherche en santé, puis pour le coup très pluridisciplinaire. Là, dans le pays dans lequel je suis, il y a quand même un sujet massif qui doit être investi de façon peut-être plus rigoureuse qu'il ne l'est, c'est la question de la crise. Pour nous, la crise, ce n'est pas uniquement quelque chose qui nous empêche d'aller sur le terrain ou qui nous oblige à faire preuve d'innovation sur le plan méthodologique, comment faire des entretiens quand on ne peut pas être en face à face avec... Bon bref, il y a tout un tas de choses. Non, c'est d'abord un sujet de recherche. C'est quoi l'État avec un grand E au Mali, au Niger ou au Burkina? C'est quoi ces relations Nord-Sud? À quoi sert et pourquoi l'aide au développement? Bon bref, là il y a des sujets massifs. Et c'est quoi les conflits? Est-ce qu'on a affaire à des conflits ethniques ou pas? Vous voyez, c'est des sujets qui traversent la presse qui s'intéresse à ces questions, mais qui sont au cœur de questions de chercheurs en sciences sociales.
Et ce sont des sujets donc de crise, de cette crise, que les chercheurs peuvent prendre à bras le corps, qu'il est possible d'étudier quand on est en plein dedans, Laurent Vidal ?
Oui, tout à fait. Alors, par contre, il y a deux grandes tendances, si vous voulez, mais ça renvoie aussi à ce qu'on disait au début, l'organisation de l'université dans des pays comme Mali, ou enfin, en tout cas de la recherche, où la recherche est relativement faiblement développée. C'est qu'il y a tout un marché de la consultance. Et nous, chercheurs de l'IRD, avec des collègues des pays, on peut y participer hein, pour répondre à des commandes de bailleurs pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans telle région, sur telle thématique, etc. Donc on produit des connaissances, on essaie de le faire en respectant nos règles méthodologiques, etc. Mais c'est un peu en marge de l'université. Et puis après, il y a effectivement, et ça c'est un autre objectif, c'est essayer de développer des laboratoires, des formations qui sont dédiées à l'analyse des contextes de crise. C'est un sujet en soi, la crise. Et là, pour le coup, vous pouvez mettre des climatologues, des hydrologues, des sociologues, tout un tas de gens dont le terrain est impacté par la crise.
Ce qui veut dire que dans Global Africa, il sera aussi probablement question de recherche sur les crises politiques, économiques, environnementales, sociétales, sanitaires qui nous occupent et qui occupent le continent.
Oui, alors là c'est vrai, je parle avec un tropisme Sahel, si je puis dire, parce qu'il y a des problématiques particulières. Après, Global Africa, c'est aussi un projet, je dirais, optimiste. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais l'idée quand même, et je pense que Mampen Daba pourra le dire mieux que moi, c'est de développer une réflexion sur l'Afrique à partir de l'Afrique, mais qui aussi parle au monde. C'est vraiment un projet panafricain, pas que francophone. Il y aura y compris des chercheurs de la diaspora qui réfléchissent aux trajectoires du continent, d'une part, et ça, ce n'est pas des 20 mots, ce que je vous dis, c'est que ça va se traduire dans les langues de publication, il y aura des articles en français, en anglais, en arabe et même en swahili. Mais moi, ce qui me plaît particulièrement dans ce projet, c'est que ce n'est pas un panafricanisme qui se regarde, si vous voulez, ce n'est pas un panafricanisme étriqué, non, si tant est qu'à l'échelle du continent, on peut parler de quelque chose d'étriqué, non, c'est un panafricanisme qui est ouvert. Il y a cette ouverture disciplinaire, c'est pluridisciplinaire, il y a cette ouverture linguistique. Parce qu'à partir du moment où on écrit en anglais, on écrit en arabe, on ne parle pas qu'à l'Afrique, on comprend bien. Bon, et en français aussi. Et puis, il y a cette ouverture au niveau des objets, c'est-à-dire qu'il s'agit de réfléchir à des questions qui concernent l'Afrique, mais qui en même temps permettent, par une forme de passage à l'échelle intellectuelle, si vous voulez, de participer aux débats internationaux, finalement, c'est ça. Il y a des choses aussi autour de Covid, et moi qui ai travaillé depuis longtemps sur le sida, bon, j'ai tendance à dire qu'avec Covid, il y a un petit peu rien de nouveau sous le soleil. C'était comme pour Ebola. Pour les gens qui ont travaillé sur le sida, on est vraiment en terrain inconnu, mais on n'en tire aucune fierté parce que précisément, les enseignements de sida n'ont pas été tirés. Je parle de quoi, par exemple ? Dans les relations nord-sud, c'est quand même l'inégalité d'accès au vaccin. Il y a 25 ans, c'était l'inégalité d'accès au traitement pour le VIH. Depuis l'Afrique, par exemple, on a beaucoup d'éléments pour questionner ce que les politistes appellent les relations internationales, hein, les relations nord-sud. Moi, il y a une question massive, à mon avis, au-delà des interrogations sur les transformations du climat, qui sont évidemment extrêmement importantes, sur les questions de crise au sens large, sur le problème de l'État, les problèmes de santé, c'est les questions d'identité. Je pense que c'est peut-être paradoxalement, alors qu'on parle de mondialisation, enfin en tout cas, elle va de pair avec des rétrécissements identitaires, très clairement. Et je pense même que le repliement identitaire, c'est un peu le carburant de la mondialisation. C'est un peu paradoxal, mais je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on le voit, il y a de plus en plus de défiance vis-à-vis de l'autre, l'individu a de plus en plus tendance à se définir par rapport à un groupe, une essence, entre guillemets, hein, c'est des processus d'essentialisation et tout. Et ça, c'est un phénomène massif qu'on ne trouve pas qu'en Afrique. Mais il se trouve qu'en Afrique, on a des éléments pour le questionner au niveau global. J'en suis convaincu.
Je voudrais vous faire réagir, Mampen Daba, depuis Dakar, à ce que vient de dire depuis Bamako Laurent Vidal, d'autant que c'est vraiment votre domaine. Hein. Je rappelle que vous êtes chercheuse en sciences politiques et votre laboratoire à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis s'intitule « Société et pouvoir, Afrique et diaspora ».
Absolument. Je retrouve en fait nos discussions, nos échanges qui s'inscrivent maintenant dans la durée. Et je partage vraiment très largement les perspectives de Laurent. Ce que je voudrais peut-être juste éventuellement rajouter, c'est dire en fait que Global Africa, sa ligne éditoriale est précisément en fait sur ces deux niveaux-là. Nous sommes dans un continent où les questions anciennes, entre guillemets, fondamentales, essentielles, fondamentales comme celle de cette construction toujours en cours de l'État, de ses recompositions, de sa complexité, la question des enjeux globaux, la question de la santé qui revient, la question de l'éducation, la question de l'accès à l'enseignement supérieur, la question de la recherche, la question de la sécurité, et puis vous déclinez ça évidemment en sécurité humaine, environnementale, alimentaire, etc. Ces vieilles questions qui sont essentielles, nous, effectivement, nous les prenons en charge, nous y réfléchissons, nous regardons qui sur le continent est en train de produire une pensée innovante et disruptive sur ces matières, encore une fois, que j'appelle fondamentales et anciennes. Ce sont en fait les gros rochers en réalité. Oui. Mais en même temps, vous le savez, et c'est pourquoi on parle de globalisation, nous sommes pris dans un vertige de transformation, d'incertitude, de nouveautés radicales. Les questions liées à l'intelligence artificielle, les questions liées à la 4e révolution industrielle, les questions qui sont liées aux données personnelles, à ces fameux big data, par exemple. Les questions qui sont liées aux limites planétaires, ce gros débat. Et je pense que les inondations de New York nous en donnent encore un aperçu dramatique. Cette question de la finitude planétaire, en réalité, nous sommes aussi obligés, puisque nous sommes partie prenante de cette planète et de cette Terre, de réfléchir sur ces questions-là, qui sont des questions, vous le savez, qui touchent tout le monde. Et ce que nous espérons dans Global Africa, c'est non seulement apporter des réponses, vous voyez, domestiques, continentales, qui sont, parce que la question de l'État au Sénégal n'est pas celle de l'État en Malaisie, par exemple. Donc, nous devons apporter des réponses particulières qui nous sont propres ici, mais en même temps, nous devons prendre part à ce dialogue mondial sur ces enjeux-là, qui sont des enjeux qui dépassent le seul continent. Et ce qui manque précisément, je crois que même le monde ressent ce manque-là, c'est précisément la touche, littéralement, la spécificité de la réponse africaine, qui ne peut pas être la réponse asiatique, qui ne sera pas la réponse européenne ou la réponse de l'Amérique, même de l'Amérique latine, même si nous avons beaucoup de points de convergence. Cette réponse africaine, elle est importante dans la discussion. Elle peut changer les choses. Je prendrai Caroline, ici un petit moment pour dire à quel point, écoutez, et vous l'avez dit quelque part, ce n'est pas que la recherche n'existe pas, c'est qu'elle est invisibilisée, c'est qu'elle est invisible, c'est qu'on ne veut pas la voir, on ne veut pas l'entendre. Dans les années 80, quand la Banque mondiale et le FMI ont, pour aller vite, imposé ces malheureuses politiques d'ajustement structurel, le CODESRIA, institution de recherche, avec la Commission économique de l'Afrique qui est basée à Addis Abeba, ont sorti un document qu'ils ont appelé un cadre alternatif aux politiques d'ajustement structurel. Et les chercheurs du CODESRIA, je pense au défunt Tandika Kandawire, par exemple, mais pas seulement, vous connaissez toutes ces immenses figures de la recherche africaine, ont crié à l'époque, nous sommes dans les années 80-90, que ces politiques seraient un désastre pour le continent, qu'elles nous mettraient dans un gouffre dans lequel nous mettrons des décennies à sortir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les alternatives existent, y compris aujourd'hui, où nous avons des institutions de recherche qui travaillent sur des modèles économiques alternatifs. Je pense à Carlos Lopez, qui a précisément dirigé à un certain moment cette fameuse commission économique de l'Afrique, qui aujourd'hui est à l'université de Cape Town, qui a vu, et c'est vraiment un fonctionnaire international, qui a préféré retourner à l'université parce qu'il mesure le poids de la recherche et des données probantes dans la prise dans la conception de politique publique, d'action publique, véritablement différente et capable de sortir les pays africains de leurs difficultés.
L'Afrique, laboratoire du monde où vous pensez, où vous êtes obligés aussi de penser ce qui nous arrive. On se dit qu'à l'IUCN, congrès en ce moment à Marseille International, il faut écouter les réponses de l'Afrique, il faut soutenir les chercheurs africains, Global Africa, Mampandaba, ou comment faire rayonner cette recherche africaine, non seulement, vous l'avez dit, sur tout le continent, mais au-delà, à l'international, et sans oublier personne, parce que je rappelle tout de même que la question des langues, et même des différentes langues de l'Afrique, des langues de science, des langues de transmission, est très importante, et que vous avez choisi de publier cette revue donc scientifique d'excellence en quatre langues, français, anglais, arabe et swahili. On va essayer justement de n'oublier personne, et je vous propose maintenant, en clin d'œil aux chercheurs lusophones, que vous m'avez dit qu'il ne fallait pas oublier non plus, on a tendance à ne parler que des anglos et des francs. Allez, on écoute un sacré chanteur et musicien du Cap-Vert qui a longtemps accompagné Césaria Évora avant de faire sa route musicale en solo. On écoute Théophile au chantre sur RFI et ce morceau, Alem 10, par ailleurs.
Além disso, onde é boa humanidade, pensar na nossa condição, na nossa pobre ambição, aspirar para a genialidade, sem gerar maldade. Nos mundo é complexo, ignorância e medo é consequência de ser percepção. A choco e todo manipulado, queres que pensar e entender. Além disso, onde seja humanidade, sofre pra mim, não tá sofre pra boa, na justa medida. Nessa estrada evolutiva, não tá só na começo. Quem pode dizer qual é essa meta? Metafísica é uma proposta da paz igual nos angústia.
Théophile Auchentre, extrait de son album Mestissage sur RFI, où vous nous écoutez à Mindelo, Cap-Vert, sur 100.7 et à Saint-Louis, au Sénégal, sur 99.7. Au Sénégal, nous sommes en duplex à Dakar, dans les studios de RFI, des studios qui sont habituellement réservés aux mandinkans et aux foulfouldés. Nous sommes en direct avec la professeure Mam Pandaba, chercheuse à l'université Gaston Berger à Saint-Louis, au Sénégal, où vous dirigez, Mam Pandaba, le laboratoire de sciences politique et où vous pilotez donc ce nouveau programme ambitieux, génial, inspirant, Global Africa, avec notamment une toute nouvelle revue scientifique panafricaine, donc Global Africa, dont vous êtes la rédactrice en chef et qui est un des piliers de ce programme ambitieux qui, on l'a dit, a pour but de soutenir et de rendre visibles les chercheurs du continent et de la diaspora qui ne sont pas tous dans le même cas. On l'a dit aussi, on parle de l'Afrique, Global Africa, c'est un monde, c'est des mondes de l'Afrique et les cas sont très très différents selon que l'on est en Afrique du Sud, où il y a des publications, des chercheurs, une reconnaissance internationale, en Égypte un peu aussi, dans les pays du Maghreb, Tunisie, Maroc, et puis Sénégal, ça peut encore aller, mais les cas sont très différents dans les nombreux pays, les langues sont différentes aussi, on l'a dit. Pourquoi ce choix aussi de faire des publications dans différentes langues, donc français, anglais, arabe et swahili, peut-être d'autres à suivre d'ailleurs, je ne sais pas.
Absolument. En fait, Swahili, c'est parce que c'est derrière Swahili, il faut entendre langue africaine. En réalité,
c'est ça.
Et c'est l'occasion de faire un appel d'ailleurs à tous les collègues, et notamment les jeunes chercheurs,
oui,
qui veulent produire dans leur langue natale, dans leur langue maternelle, dans les langues dans laquelle ils pensent le monde, dans laquelle ils voient des choses qu'ils ne peuvent pas voir en anglais, en français, en espagnol ou en portugais.
Bien
ça,
sûr.
C'est extrêmement important. Nous avons perdu plus d'une décennies avant de revenir aujourd'hui grâce à un autre rapport, je crois, des Nations Unies ou de l'UNESCO, qui montre encore une fois qu'on apprend mieux, y compris les autres langues, lorsqu'on est scolarisé dans sa langue maternelle. C'est juste une énorme perte de temps. Les langues africaines sont, comme toutes les langues, sont des univers entiers. Ils permettent de voir, encore une fois, des choses, les choses différemment, de faire des interconnexions entre le vivant, le non-vivant. Ce sont des langues qui ont des ontologies, qui ont des cosmologies propres. propre. Et c'est précisément, quand je disais tout à l'heure que c'est de ces voies-là, c'est de cet apport-là que le monde a besoin pour se renouveler, en réalité, ce qui se passe, c'est que lorsque cette recherche elle est invisibilisée, en réalité, ce sont des solutions, ce sont des perspectives, ce sont des visions du monde que l'univers, que le monde entier perd en réalité. Ce ne sont pas seulement les Africains. Quand on dit 2,6% de la recherche qui est produite sur le continent et qu'on voit tout ce qu'on aurait pu faire, ce n'est pas seulement le continent qui est en manque, qui est en perte. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est tout le monde. Et c'est pourquoi cette question des langues, elle est une question éminemment importante. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas du Swahili. On peut produire en Pula, on peut produire en Bambara, on peut produire en Yoruba. C'est extraordinairement difficile. On a eu des débats épiques sur la faisabilité, sur le financement de cette opération-là, ce que ça a demandé termes de traduction, de relecteurs. Parce que, encore une fois, c'est une revue, évidemment, avec un comité de lecture, avec des évaluateurs externes. C'est extraordinairement compliqué de produire dans des langues africaines.
Mais l'intérêt, c'est ça, c'est de produire dans des langues africaines. On a bien compris dans sa pensée, de pouvoir penser dans sa langue, dans son monde, dans son univers. Et ensuite, l'anglais est souvent la langue de la science, mais ensuite de traduire pour le partager avec les autres. Mais c'est vraiment ce passage-là qui est important, mais qui est effectivement extrêmement complexe.
Absolument complexe et coûteux, et c'est pourquoi il faut investir absolument. L'université Gaston Berger, de ce point de vue-là, a quand même fait quelque chose de remarquable. Vous savez qu'on a un département des langues et cultures africaines dans lequel nous enseignons dans des langues africaines. Nous enseignons en Pula, en Wolof, et nous avions même commencé à enseigner en Yoruba. C'est juste pour dire que ces langues-là créent des concepts sont suffisamment robustes pour pouvoir élaborer des théories, avoir une épistémologie de la recherche. Et ce ne sont pas juste des langues pour la traduction, etc., pour accéder à des populations. Ce sont des langues à travers lesquelles on peut penser le monde, on peut innover, on peut créer. Et donc, leur redonner leur dignité fait partie aussi de tout ce débat que vous avez suivi sur la décolonisation des savoirs.
C'est ça, la décolonisation des savoirs, la décolonisation des esprits. C'est vraiment c'est aussi un des piliers, un autre des piliers de Global Africa. Finalement, vous avez aussi envie, d'enlever vraiment les barrières, que ça soit les barrières de la langue, les barrières aussi entre les sciences, parce que c'est vraiment interdisciplinaire et donc il n'y a pas les sciences humaines et sociales d'un côté et les sciences exactes ou dures de l'autre. Il faut vraiment que ça dialogue, mais chacun avec son univers, sa pensée, son monde, ses mondes. C'est ça, hein,
Caroline? Quand les questions sont des questions extraordinairement complexes, touchent simultanément à divers aspects. Prenez la question de la COVID. Vous ne pouvez plus dire qu'une discipline a la réponse ou même une grosse partie de la réponse. L'interdisciplinarité, ce n'est plus un choix. C'est notre mode de réflexion. Nous ne pouvons plus penser en silo. Nous sommes obligés de penser avec d'autres. Et cette modestie épistémologique, c'est les sciences sociales africaines. Non, c'est extrêmement important. Obligées, cette modestie, le fait de dire que nous sommes, encore une fois, dans de l'incertitude et nous ne savons qu'une portion et éventuellement même une portion microscopique du réel. Donc, je suis obligée de m'ouvrir à ma collègue qui est sociologue, de m'ouvrir à mon collègue qui est économiste et d'avoir un collègue mathématicien qui... J'étais en train de travailler il n'y a pas longtemps sur les couvertures maladies universelles en Afrique et les modélisations ont été faites par un collègue mathématicien. On en est là. C'est-à-dire que la réduction du réel qu'il est capable de faire parce que j'ai trop de données, et quand il me sort ces tableaux de vérité, c'est littéralement ça. Je vois mieux. On voit mieux, on pense mieux, on comprend mieux avec d'autres. Et quand on dit « d'autres », il ne s'agit plus seulement de penser avec les autres sciences sociales ou même avec les sciences entre guillemets dures. Il s'agit maintenant de rentrer dans l'ère de la durabilité, c'est-à-dire de penser avec les acteurs de la société, avec les citoyens, avec tout ce qu'on appelle les fameux stakeholders, les parties prenantes, de penser avec des gens qui, sur le continent, ces fameux porteurs du savoir endogène. C'est ça, en réalité, notre ambition. C'est de quand on dit on sort des... On arrête de délimiter, on sort de la fermeture. Il ne s'agit pas seulement d'ouvrir encore une fois, de baisser les barrières dans l'université, mais il faut faire tomber les murs de l'université. Et l'université de demain n'a pas de murs.
qu'on vous entende, Mme Pandaba. Et en plus, parce qu'un autre pilier, vous en avez parlé, c'est la science de la durabilité. C'est des projets sur le long terme autour de la question comment faire rayonner la recherche sur le continent. On ne peut que vous suivre, on a envie de vous encourager, Mme Pandaba, sur le chemin de Global Africa. Allez, on écoute votre deuxième choix musical. Pas mal non plus. C'est le chanteur et musicien sénégalais Cherlo, un vrai panafricaniste entre Mbalax, reggae, Cherlo sur RFI, merci Mme Pandaba pour ce très joli choix musical et résolument panafricain autour de la question comment faire rayonner la recherche africaine en attendant de célébrer le premier numéro de Global Africa, la nouvelle revue scientifique africaine qui sera en accès libre plurilingue sur internet. Vous avez envie, vous avez eu envie Mme Pandaba depuis nos studios à Dakar, in memoriam, de réécouter la voix d'une autre chercheuse sénégalaise remarquable et remarquée. C'est la regrettée Rose Dienkuns, sorte de météorite qui a durablement marqué tout le champ de l'intelligence artificielle et du web. Née à Dakar en 1956, décédée à Nice en 2009, Rose Dienkuns était directrice de recherche à l'INRIA. Ce fut la première femme africaine à intégrer l'école polytechnique. Rien que ça, lauréate du prix Joliot-Curie, c'est elle qui en quelque sorte a réussi à rendre le web intelligent en travaillant sur le web sémantique comme elle s'en expliquait de manière claire, simple et limpide dans cet extrait d'une vidéo INRIA qui lui est consacrée, hommage à Rose Dienkuns, qui nous inspire le chemin pour aujourd'hui et pour demain.
Il est possible d'être femme, noire, africaine, scientifique, travailler en intelligence artificielle, donc dans un domaine de recherche difficile, et de pouvoir s'épanouir.
On peut penser que le web du futur sera personnalisé, c'est-à-dire qu'il prendra en compte le contexte de l'utilisateur, son profil, etc., qui sera dynamique, qui sera ubiquitaire et qui sera sémantique. Donc le web sémantique, c'est une vision de Tim Berners-Lee où l'idée, c'est de rendre la sémantique des ressources du web explicite de manière que des programmes puissent l'exploiter au même titre que des hommes actuels. Actuellement, si vous prenez un moteur de recherche classique et que vous cherchiez tous les documents concernant un accident de véhicule, alors ces moteurs classiques vont chercher en fait tous les documents dans lesquels les mots accident et véhicule vont apparaître. Et si par contre un document décrit une collision entre un camion et un vélo, si les mots accident et véhicule n'apparaissent pas, un tel document ne sera pas retrouvé par le moteur de recherche. Et pourquoi ? Tout simplement parce que contrairement à nous humains, le moteur de recherche ne sait pas qu'une collision c'est une sorte d'accident et qu'un camion et un vélo, ce sont des sortes de véhicules. Et donc l'idée du web sémantique, c'est cela, c'est d'essayer de rendre cette information disponible à un programme sous forme de ce qu'on appelle des ontologies.
Rose Dienkuns, trop tôt disparue, une sacrée chercheuse qui a marqué, qui a rendu, j'ai envie de dire, le web intelligent et même intelligible pour nous. Elle a de quoi vous inspirer, nous inspirer, Mme Pandaba.
Caroline, si ce programme devait porter le nom de quelqu'un, ce serait définitivement le nom d'une femme. Mm-hmm. Et je pense que prioritairement, ce serait Rose Diakounz, parce qu'elle elle représente énormément de choses. Vous savez, au Sénégal, il y a un nom qui fait consensus dans la recherche. C'est le nom de Souleymane Bachir Diagne.
Mm, absolument.
Et que vous connaissez très bien. Et Bachir Diagne lui-même, je me souviens, disait que c'était le promotionnaire. Ils étaient dans la même classe. Mmh. Et le seul, ou en l'occurrence la seule qui systématiquement le battait dans quasiment toutes les matières, c'était Rose Diagne. Et il a vraiment fait une déclaration absolument magnifique à son encontre. Et si c'est pas Rose Diagne, je peux vous citer ici un chapelet de noms de femmes qui ont fait des choses absolument fascinantes et importantes pour le pays et pour le continent. Je pense à Aminata Diaoussissé aussi, mm-hmm, qui était au Codesria, mm-hmm, que absolument. Vous devez connaître, qui est malheureusement elle aussi qui est disparue. Et ça, ce sont des pertes fondamentales. Ces femmes-là qui... Et voilà, donc ce serait le nom d'une femme. J'essaie toujours de faire un mix entre ces noms, entre Rose, Aminata et toutes ces...
Oui, il faudrait en trouver. Et ces femmes éclaireuses qui sont... s'empare en plus de sujets, en l'occurrence pour Rose Diagne, le web sémantique, vraiment des sujets costauds, des sujets d'avenir, mmh, des sujets fondamentaux, et qui là aussi amènent autre chose. Elles éclairent le chemin, clairement, comme vous aussi, hein, Mme Penaba, parce que vous êtes tout de même, rappelons-le, hein, je crois, la première femme agrégée en sciences politiques, professeure du Sénégal. Enfin, il y a des talents considérables et peu connu. Heureusement, vous citiez Souleymane Bachir Diagne qui la mettait en avant, mais il y a vraiment une sacrée relève du côté, mm-hmm, des jeunes, du côté des femmes, qu'il faut absolument rendre visible. C'est aussi ça, votre but.
Exactement. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller dénicher ces pépites qui sont là, mais on ne sait pas. On ne sait pas leur donner l'espace et la place qui sont les leurs en réalité. L'idée de ces écoles jeunes chercheurs, c'est encore une fois de créer un espace panafricain de la recherche. Et quand je dis ces jeunes chercheurs, nous nous entendons bien sur le fait que dans panafricanisme, nous entendons une continuité entre le continent et ses diasporas. Non seulement entre le continent et ses diasporas, mais comme Laurent le disait tout à l'heure, c'est un programme ouvert. C'est-à-dire que ceux qui s'intéressent au continent, tous ceux qui travaillent sur le continent, tous ceux qui luttent pour l'émancipation, qui est aussi un chantier sur le continent, sont effectivement et absolument les bienvenus. Il n'y a pas sur ce plan-là de fermeture. Et donc là, c'est très important d'aller les chercher et de les faire dialoguer. Une école jeune chercheur, si vous m'autorisez, Caroline, c'est
très
véritablement...
Rapidement.
Très rapidement, c'est sur le continent, aller chercher des jeunes qui parlent portugais, anglais, espagnol, swahili, yoruba, etc. Les mettre ensemble pendant un temps suffisant avec des mentors de niveau international qui les accompagnent, qui les incubent littéralement pour qu'ils deviennent ces Rose Diagne-là, pour qu'ils deviennent ces Aminata, qu'ils deviennent ces Souleymane Bachir Diagne. La relève est importante. Nous ne pouvons pas donner le micro uniquement à Mamadou Diouf, qui est un génie, à Félix Winsart. Vous voyez, ce sont en gros à Achille Mbembe. Vous voyez, c'est
Il faut qu'il la relève, absolument. Écoutez, chère Mme Penaba, on arrive à la fin de cette émission, j'en suis désolée, mais on n'a pas fini, parce que Global Africa, nous, on va suivre, parce que ça nous intéresse vraiment. On ne sait jamais, peut-être qu'on pourra même vous retrouver à Saint-Louis pour essayer de voir ça de plus près. Je vous remercie infiniment d'avoir été en direct avec nous depuis les studios de RFI à Dakar, chère Mme Penaba. Je remercie aussi à la technique sur place à Dakar, Souleymane Diagne. Vous revenez quand vous voulez, Mme Penaba, en vrai, ou c'est moi qui viens à Dakar, à Paris, à Saint-Louis ou ailleurs, hein, le continent est grand.
Exactement.
À bientôt.
Merci
à bientôt.
Infiniment.
Et
merci
vive Global Africa. Vous aurez des nouvelles au mois de mars, hein, il me semble, chers amis auditeurs. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation signée Hugo Violas, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Achowski au micro. Demain, autre sacrée question. Autour de la question, comment réparer les vivants, avec l'archéologue du handicap Valérie Delattre et le champion paralympique et militant Riyad Salem. À demain, surtout restez curieux.
7 milliards de voisins.